Alors, cela dit, il y a quand même depuis toujours, depuis le début de l'islam, il y a toujours eu des savants ou des docteurs, comme on dit dans l'islam, donc versés en sciences religieuses, qui ont proposé des commentaires ou des interprétations du Coran. Il ne s'agit pas d'études scientifiques sur le texte, mais de permettre aux fidèles de mieux savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu leur demande. Quand c'est trop obscur, les commentateurs disent, voilà, c'est ce que Dieu veut. Donc il y a des commentaires, mais pas d'exégèse. Mais ces commentaires peuvent être très divers et ils peuvent même être contradictoires entre eux. C'est un vrai problème, ça. Le problème, pourquoi il peut y avoir ces contradictions, c'est parce que dans l'islam, il n'y a pas de magistère unique et authentique. Dans l'Église catholique, il y a le pape et les évêques. Ce sont eux qui sont responsables de l'interprétation authentique des Écritures. Et on sait aussi que dans l'Église, les fidèles connaissent l'enseignement du magistère, mais en même temps, l'Église les laisse libres. Voilà. De suivre ou de ne pas suivre l'Église. C'est la conscience personnelle de chacun qui dicte sa conduite. Alors, donc, dans l'islam, il n'y a pas de magistère authentique et unique, si bien qu'il y a une multiplicité de commentaires et d'interprétations. Depuis les débuts de l'islam, c'est comme ça. Alors, on est en présence de lectures qui peuvent être assez libérales par rapport au Coran et d'autres lectures qui peuvent être très rigoristes. Vous voyez? Alors aujourd'hui, comment ça se présente? Comment la situation se présente? Il y a une catégorie de musulmans, d'intellectuels, qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam. Les nouveaux penseurs de l'islam disent qu'il faut adapter le Coran à la modernité. Mais comment faire? Étant donné qu'on ne peut pas faire d'exégèse. Alors ils essaient de réfléchir. En lisant le Coran, comment sortir du cadre figé, disons, de l'islam. Je vous donne un exemple concret. Voilà, certains nouveaux penseurs disent nous devons faire une lecture finaliste ou vectorielle du Coran. Finaliste ou vectorielle, ça veut dire voir le sens ultime, le sens définitif voulu par Dieu pour tel ou tel aspect. Alors, ça ne concerne jamais le dogme, la doctrine. Ça concerne les mœurs, la loi, etc. L'exemple concret là, que je vous donne, c'est la polygamie. Dans le Coran, je vous reparlerai de la polygamie, donc je ne donne pas les références là, mais c'est pour vous donner l'idée. Dans le Coran, Dieu permet à l'homme d'épouser jusqu'à quatre femmes en même temps. Dans le verset suivant, Dieu dit que l'homme, le mari, doit traiter ses épouses à égalité sur le plan affectif et sur le plan matériel. Et un autre verset dit, même si vous le voulez, vous les hommes, vous ne pourrez jamais traiter vos femmes à égalité. Alors, les tenants de la lecture finaliste disent, voilà, Dieu permet aux hommes la polygamie parce que les hommes sont faibles, mais Dieu préfère la monogamie parce que on ne peut pas traiter toutes nos femmes à égalité. Donc, il est recommandé d'être monogame et c'est vraiment ça la volonté de Dieu. Voilà, on a un exemple comme ça. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de magistère unique et authentique, d'autres musulmans, d'autres penseurs, qui font pas partie de ceux qui veulent adapter le Coran à la modernité, diront, mais non, puisque Dieu nous permet la polygamie, c'est légal. Voilà, nous continuons à justifier cette manière d'envisager le mariage. Vous voyez? Par contre, quand le Coran est très clair sur un principe, il ne peut pas y avoir de lecture finaliste. Par exemple, le Coran interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman. Ça aussi, je vous donnerai la référence quand je parlerai du mariage. Mais c'est clair, nettement. Si bien que, y a pas d'accommodement possible. On ne peut pas pratiquer une lecture finaliste, là. C'est pourquoi dans les pays qui ont le plus modernisé leur code de la famille, en l'occurrence la Turquie et la Tunisie, eh bien ça n'a pas pu être supprimé. Vous voyez, en Tunisie, enfin maintenant on va voir ce que ça va donner avec la révolution, hein, mais jusqu'à présent, on a supprimé la polygamie et la répudiation. Parce que justement, il y a des accommodements possibles permis par le Coran. Par contre, l'empêchement du mariage d'une musulmane avec un non-musulman est tellement nette dans le Coran qu'on n'y a pas touché dans ces deux pays, voyez. Donc la modernisation des sociétés musulmanes, elle a des limites à cause de ça, voyez. Alors ces nouveaux penseurs de l'islam, certains aussi disent qu'il faut contextualiser des versets qui posent problème aujourd'hui. Par exemple, la violence, la légitimité de la violence, de la guerre contre les non-musulmans. Ils disent que c'était valable à un temps, en même temps, où on ne pouvait pas faire autrement. L'islam était fragile, l'islam naissant. Il était attaqué, donc il fallait bien se défendre. Aujourd'hui, l'islam est dans le monde entier. Il y a des millions de fidèles. Il n'est plus possible de pratiquer la violence au nom de Dieu et au nom de l'islam. Alors, eux, c'est ça, leur lecture. Mais, par ailleurs, les versets coraniques justifiant la violence sont maintenus dans le Coran par la force des choses, à cause de son statut incréé, divin. Donc, on a des penseurs qui, eux, disent... Oui ?
Excusez-moi, ceux qui ont cette vision finaliste sont musulmans ou pas ?
Oui, oui, je vais... Et donc, les autres disent, mais moi, je tue au nom de Dieu parce que dans le Coran, il y a tel ou tel verset, et comme le Coran est transcende l'histoire... Ben, il n'y a pas de raison de contextualiser tel ou tel passage, vous voyez. Alors, ces nouveaux penseurs, oui, ce sont des musulmans. En général, ce sont des musulmans qui s'affirment musulmans, qui n'ont pas de complexe à se dire musulmans. Ce ne sont pas des musulmans athées, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? C'est que ces musulmans, d'abord, ont du mérite. Ils ont du courage, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout que dans leur pays, souvent, ils sont menacés. Je vous donne un exemple. Dans les années 1980, en Égypte, il y avait un universitaire, musulman donc, il s'appelle, enfin il est mort il y a 2 ans, Nasr Abou Zayd, A-B-O-U, Nasr c'est son prénom, N-A-S-R, ça veut dire victoire en arabe, Nasr. Abou, A-B-O-U, ça veut dire père, Zayd, Z-E-I-D. Alors Nasr Abou Zayd était un universitaire très connu. Il a osé publier un livre au titre provocateur, Critique du discours religieux. Il s'en est pris à la tradition, à la lecture traditionnelle du Coran, sur tous les plans. En particulier, la situation de la femme et la situation des non-musulmans aussi dans les pays musulmans. Vous verrez que ce n'est pas drôle. Et bien, alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, on l'a radié des cadres de l'université. Il n'a pas pu poursuivre sa carrière. Et en plus, à la demande d'El Azhar, l'institution dont j'ai parlé tout à l'heure, il a été déclaré divorcé. Pourquoi ? C'est que son épouse, qui était musulmane, elle devenait du coup l'épouse d'un apostat. Abou Zayd était devenu un apostat aux yeux des autorités musulmanes égyptiennes. Donc, elle ne pouvait pas continuer cette union illégitime, en quelque sorte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous les deux sont partis aux Pays-Bas et Abou Zayd a obtenu une chaire d'enseignement à l'université de Leyde. Son livre, La critique du discours religieux, est paru en français et il a continué, donc il est mort il y a 2 ans. Mais voyez, dans un grand pays musulman comme l'Égypte, voilà ce que on risque quand on a l'audace de proposer des nouvelles interprétations du Coran qui ne vont pas dans le sens... disons majoritaire. Alors, en fait, le seul pays qui a vraiment permis à des intellectuels musulmans de faire un vrai travail, non pas d'exégèse, mais de nouvelles interprétations du Coran, ce pays, c'est la Tunisie. La Tunisie qui vient de changer de régime, comme vous le savez. Enfin, qui est en train de changer de régime, plutôt. On peut dire, évidemment, le plus grand mal de Ben Ali, c'était un dictateur, un corrompu, ça c'est vrai. Mais en même temps, il avait reçu l'héritage de Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne, qui avait ouvert la voie à une certaine libéralisation de la pensée. En Tunisie, vous voyez, il y a une institution qui ressemble à El Azhar au Caire. En Tunisie, c'est la Zitouna, Z-I-T-O-U-N-A. C'est cette institution qui prétend avoir le monopole en matière de pensée religieuse. Elle est très ancienne aussi. El Azhar a été fondée au Xe siècle, la Zitouna un peu après. Et alors, Ben Ali a créé au sein de l'université d'État, donc en dehors de la Zitouna, une chaire permettant à des universitaires de mener des études des réflexions plutôt sur la pensée religieuse islamique. Donc il y a une concurrence entre les deux. Et c'est au sein de l'université d'État que s'est constitué un groupe d'intellectuels qui promeut, qui fait la promotion donc de nouvelles lectures du Coran. Alors leurs livres sont très intéressants, ils sont parus en français pour la plupart. Hein. Et voilà, donc dans ce pays, on a pu avoir ce genre de pratique. Mais en même temps, alors depuis la révolution tunisienne, on n'entend plus parler d'eux. J'en connais quelques-uns, moi j'en connais au moins trois, oui, deux hommes et une femme. Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, on ne peut plus avoir de contact avec eux non plus.